Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, le deuxième débrief du Combine. On a déjà fait l'attaque. Vous pouvez retrouver le podcast. Il a été publié mercredi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui s'est passé au NFL Combine, mais du côté défensif du ballon. Donc, on va commencer un petit peu à vous parler des confirmations, vraiment des gros prospects, ceux qui sont prévus pour le top 15 de la draft. Et ensuite, on ira un petit peu plus en profondeur des joueurs qui ont marqué des points et qui ont fait un très bon Combine. Et ça annonce une superbe draft du côté défensif. Pour ce faire, je suis accompagné de Victor Roulier. Salut Victor, ça va bien ?
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien.
Eh ben alors, on est parti. Voilà, ça y est, on est en pleine draft season. Du coup, on est super chaud. D'ailleurs, sur le site, vous pouvez le voir, les fiches draft ont commencé. Il y a déjà celle de Caleb Williams. Hier, vous avez vu, il y a celle de Cooper DeJean, un joueur très intéressant, donc un défenseur. On parlera pas de lui. Vous pourrez lire l'article qui a été publié hier. Aujourd'hui, on va commencer avec un joueur extraordinaire qui est prévu pour le top 10 de la draft. C'est un pass rusher. Il s'appelle Dallas Turner et il nous vient d'Alabama, Victor.
Oui, écoute, Dallas Turner, on avait fait le podcast des Edge où on avait expliqué un peu son profil, c'est-à-dire un joueur fin, mais absolument létal. Et finalement, les tests n'ont fait que confirmer ça. C'est-à-dire que oui, il ne rentre pas exactement dans tous les critères si on compare à des defensive ends traditionnels. Mais là où je trouve que le combine est un peu, on va dire, d'un autre temps, c'est qu'il faudrait, selon moi, séparer un peu des edges, parce que la réalité, c'est que selon les profils, ça peut être très différent. Donc, par rapport à la position qu'on attend de lui, globalement, c'était bien, c'était peut-être même mieux que prévu. Et puis, bah, écoute, il a confirmé qu'il était tout simplement un des plus grands athlètes de cette classe. Il a des très grands bras, il court très vite, il saute très haut. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui sont des athlètes et ça ne se retranscrit pas sur le terrain, bah lui, ça se voit sur le terrain. C'est tout simplement un des meilleurs joueurs de cette draft.
Oui, voilà, tout simplement. Il a le prototype physique parfait du edge rusher et c'est pas que du physique. On l'a vu à Alabama et puis quand on voit les tests athlétiques, puisqu'on parle de ça, on parle du combine, ben, c'est ce qu'on voit aussi. Et quand on parle de tests athlétiques, alors oui, il a couru très vite, le sprint en ligne droite, etc. Mais c'est aussi tous les ateliers spécifiques où il s'est montré très intéressant quand il faut savoir courir vite tout en se penchant, quand il faut savoir percuter. Alors certes, ce sont ce qu'on appelle des bags, des gros mannequins en mousse, etc. C'est pas un joueur NFL, mais on l'a vu à NCAA, au plus haut niveau universitaire. Ouais, il donne quand même beaucoup d'assurance. On pourrait comme ça rajouter, puisqu'on parle du combine, Jared Verse, à la même position, qui a fait lui aussi une très bonne confirmation. Il a confirmé toute sa puissance et en même temps sa rapidité. Shop Robinson de Penn State aussi. Layatou Latou, qui a été peut-être un petit peu moins rapide dans les ateliers, mais qui, dans les ateliers, dans les tests athlétiques, je veux dire, mais dans les ateliers spécifiques, s'est montré très très bon. Lui aussi, il a confirmé. En gros, tous ceux qu'on attend ont confirmé au NFL Combine. Donc, ben voilà, on est parti pour une belle classe de pass rusher. En tout cas, au premier tour, il y en aura au minimum 4, peut-être un petit peu plus, sans doute. Mais voilà, déjà, le NFL Combine, sur cette position, c'était vraiment très très beau à voir. Autre joueur qui a vraiment confirmé, c'est le cornerback Quinion Mitchell. Alors lui, Quinnon Mitchell, c'est impressionnant parce que il a fait deux superbes saisons avec Toledo sur le terrain. Beaucoup de passes défendues, des interceptions. On s'est dit, oh là là, mais quel phénomène. Mais la limite, il joue pour Toledo. Alors ça veut dire quoi, Toledo? Ça veut dire que forcément, il raconte des adversaires un petit peu moindres. Voilà, hein, on va pas dénigrer. Ce sont quand même de très bons joueurs qu'il a rencontrés. Mais il n'a pas affronté ni Georgia, ni Alabama, ni Michigan, etc. Donc, il y avait quelques tout petits doutes. Même si déjà ce qu'il montrait sur le terrain, on se disait quel joueur. Et puis il arrive au Senior Bowl, paf, face à la crème de la crème, il confirme. Je veux bien, ce sont des entraînements, c'est un match qu'on peut qualifier d'amical, mais il confirme. Et puis il arrive au NFL Combine et qu'est-ce qu'il fait? Il nous tape un sprint de 4.33, il fait des ateliers fantastiques, même le développé couché, il a montré de la puissance, enfin bref, il a juste confirmé. Quinnon Mitchell, Victor, est, pour moi, il est en jeu pour être le premier cornerback choisi lors de...
Oui, bah écoute, pour moi, il était... alors, je vais mettre un peu de côté Cooper Dejean, qui est un hybride cornerback-safety. Si on parle des cornerbacks extérieurs purs, moi, avant les événements, en effet, d'intersaison, je trouvais que sur le terrain, c'était le meilleur. Mais comme tu disais, à cause de Toledo, etc., je me suis dit, des Terrion Arnold, des joueurs comme ça qui ont joué dans des grosses universités, risquent de lui passer devant. Tu l'as très bien résumé, en fait. Pour les joueurs venant de petites universités, et quand je dis petits, c'est pas dégradant, ben évidemment que ces événements d'intersaison, c'est crucial. Et là, il n'a pas seulement été bon, il a été le meilleur. Et j'ai trouvé ça vraiment assez extraordinaire. Je trouve qu'aujourd'hui, il est même, je vais dire, pour moi, favori pour être cornerback numéro 1. Pas seulement une possibilité... Je mettrais carrément favori parce que je trouve qu'il est au-dessus des autres.
Et du coup, ça le projette à peu près où pour toi? Top 10?
Top 10. Ouais, top 10.
Oui, c'est vrai, il coche toutes les cases et puis c'est une position tellement importante que oui, top 10, ça serait vraiment... Oui, ça paraît cohérent.
Ces dernières saisons, on a vu que des équipes sont plus... on se souvient de Derek Stingley qui a fini 3e, si je ne dis pas de bêtises. Sauce Gardner, il doit finir 4, 5, 6, je ne sais plus. Je ne retiens jamais les positions, mais la réalité, c'est que les équipes ne sont plus frileuses aujourd'hui, avec quand même l'augmentation globale de la stature des receveurs. Les équipes ne sont plus frileuses à investir sur les cornerbacks. Et clairement, je ne serais pas surpris. Alors, il descendra peut-être un peu en dehors du top 10 s'il y a un rush sur les quarterbacks et linemen offensifs, par exemple. C'est possible, mais ça ne va pas descendre beaucoup plus loin.
Oui, exactement. Donc, top 10 pour les deux joueurs, Dallas Turner, le pass rusher d'Alabama, et Quinnon Mitchell, le cornerback de Toledo. Parce qu'on a choisi de vous parler à chaque fois d'un joueur à chaque position, maintenant on va parler d'un defensive tackle et d'un linebacker. Et là, a priori, on ne parle pas de top 10 parce que ben déjà, ces positions sont un petit peu moins cotées et ce ne sont pas forcément les deux meilleurs joueurs à leur position, mais pourquoi pas. Et on peut commencer, si tu veux bien, par le linebacker. On avait envie de parler de Edgerrin Cooper. On en avait déjà parlé dans un podcast avant tous ces événements pendant la saison. Edgerrin Cooper, ben moi je trouve que c'est un linebacker extraordinaire parce que ben déjà il a le gabarit et on voit bien que le gabarit ça sert en NFL. On en a vu combien de linebackers extraordinaires au niveau universitaire et puis qui arrivent à NFL et ils n'ont pas le gabarit, ils sont pas assez athlétiques et du coup ben ça donne des joueurs d'équipe spéciale, des Tyler Matakevich, etc. Lui, il a déjà le gabarit, il a suffisamment de vitesse, il est athlétique et ça, donc, il a confirmé au NFL Combine, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et puis, c'est quelqu'un, moi, je trouve, qui peut un peu tout faire. C'est-à-dire qu'il est très bon pour le run-stop et il a suffisamment d'intelligence de jeu, suffisamment de vitesse pour la poursuite. Il peut également apporter en blitz, il peut également apporter en pression. Alors, en couverture, c'est peut-être pas un mètre de la couverture, mais on a vu déjà qu'il avait une certaine base. Pour moi, Edgerrin Cooper, il n'est pas loin d'être le linebacker numéro 1 de cette QV. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est pour ça, quand tu disais pas forcément numéro 1 à leur position, écoute, Edgerrin Cooper, il y a un monde où tu peux le considérer numéro 1 linebacker. Alors évidemment, c'est pas un linebacker générationnel dans une position d'évaluer. Donc comme tu le disais, c'est clairement pas un joueur qui va aller dans le top 20, sauf surprise. Mais malgré tout, écoute, j'ai trouvé que globalement, on savait qu'on avait un joueur violent dans le bon sens du terme, qui sait utiliser son physique, qui a envie d'utiliser son physique, Mais on a aussi vu un joueur assez fluide, un joueur capable de changer de direction aussi assez facilement. Donc j'ai trouvé que globalement, il a montré qu'il était en effet un encore meilleur athlète qu'on aurait pu le penser, même si évidemment, quand on voit qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il fait 230 livres en poids, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on est encore sur des standards d'il y a 10-15 ans où les mecs faisaient 10 kilos de plus. Dans les standards d'aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on voit de la plupart des linebackers. Donc, vous allez voir des notes d'évaluation physique où ils vont vous dire qu'il est trop léger. Bah, il est trop léger pour la NFL d'il y a 10 ans, mais il n'est pas forcément trop léger pour la NFL d'aujourd'hui. Donc oui, il coche toutes les cases, et c'est vrai que c'est un joueur qui est de plus en plus rassurant, parce que tu te dis, un joueur intelligent qui est un bon athlète, bon, il y a quand même peu de chances que ça ne fasse pas au moins un titulaire correct.
Ouais, qu'est-ce qu'on dit, premier tour ?
Ouais, je dirais top 45.
D'accord, donc une cote entre allez, 30 et 45 par exemple, une
ouais, chance d'être en fin premier. Premier tour, début de deuxième.
D'accord, ouais, on est plutôt d'accord. Ouais, c'est... Et comme tu dis, c'est pas tant la qualité des bonhommes qui est vraiment réelle, c'est aussi la position. Et pourquoi c'est moins important ? Ben, parce que c'est la draft et donc, comme tu le disais aussi tout à l'heure, ben, les franchises vont d'abord prioriser un tackle offensif, un pass rusher, un cornerback, un receveur et voilà. C'est un petit peu ce qu'on appelle la positional value. Maintenant, on va parler d'un joueur vraiment très intéressant et c'est un petit peu la revanche du T-Rex parce que lui, vous savez, il y a les mesures au combine et ben, il a des petits bras. On se dit, mais comment il va faire avec ses tout petits bras ? Alain Mattei nous dirait qu'il ne peut pas refaire son lit tellement il a des petits bras, mais il a montré qu'avec la puissance de ses cuisses, ben, il a confirmé ce qu'il avait montré sur le terrain avec Florida State. On parle de Braden Fiske et il a été impressionnant.
Je n'avais pas cette comparaison... De faire son lit, je ne m'en souvenais plus. Oui, bah écoute, c'est vrai que Braden Fiske, ça fait partie de ces joueurs où on a dit il a les bras trop courts. Bon, ce qui est, c'est vrai, hein, dans certains pays, ça s'appelle la jonguille, ceux qui ont la référence. Mais pour le coup, il a été athlétiquement absolument exceptionnel. Et vraiment, sur l'ensemble des ateliers... Et je considère personnellement qu'avoir les bras un peu courts, c'est moins pénalisant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peut-être à tort, mais je pense quand même que tu as moins de chances de te faire déborder sur le côté à l'intérieur qu'à l'extérieur, même si évidemment ça reste pas idéal. Mais à côté de ça, quand tu as un joueur qui physiquement a les dimensions nécessaires, qui athlétiquement semble au-dessus du lot, est-ce que tu vas vraiment tant le dégrader, enfin dégrader sa valeur juste parce que les bras ne correspondent pas exactement à ce que tu veux ? Peut-être, mais on se souvient de Rashawn Slater qui avait à peu près le même débat et puis finalement ça se passe pas tout mal en NFL. Je pense même qu'il a des plus gros bras que plus grands bras que Slater. Mais ça sera vérifié. Donc écoute, c'est pas on n'est pas là sur du premier tour, je pense pas. On sera plutôt sur du solide deuxième, voire début de troisième. Mais je trouve qu'on ne peut pas... Ça fait partie de ces joueurs où bah, des telles capacités athlétiques, tu ne peux pas les ignorer non plus.
Oui, c'est ça, exactement. Les capacités athlétiques qui viennent après une très bonne saison universitaire. Voilà, il a montré sur le terrain, il confirme au combine. Et moi, je pense qu'en arrivant au combine, c'était, comme tu dis, peut-être un début de troisième tour parce que ben, peut-être quelques limitations. Et puis, il a montré tellement de qualité athlétique que je pense qu'il a solidifié un choix au second tour. Et ça sera un très, très bon choix pour une franchise. Surtout qu'on le voit depuis plusieurs années, des linemen défensifs intérieurs qui n'ont pas forcément le gabarit idéal, entre guillemets, mais qui réussissent très bien en NFL. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à Aaron Donald, qui est un ovni, mais tous les Grady Jarrett, tous les Kalijah Kansé, etc., on voit très bien que ça peut réussir aussi. Et donc, Braden Fiske. Bon, ben on a fait un tour de chaque position avec un joueur très coté qui a confirmé. Maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur dans la draft, aller à partir du 3e et puis ensuite 4e, 5e, certains même peut-être un petit peu plus tard. Mais des joueurs qui ont montré de très belles choses au NFL Combine, on avait envie d'en parler. On va commencer ben, en restant sur la même position, tiens, de defensive tackle. On va y aller sur un joueur qui nous intrigue, il s'appelle Gabe Hall et il nous vient de Baylor, Victor.
Oui, faut bien comprendre que parfois, vous avez peut-être l'impression qu'on rabâche un peu sur les qualités athlétiques, mais quand même, statistiquement, les meilleurs athlètes sont souvent les meilleurs joueurs. Faut pas se mentir, il y a des exceptions, mais ça reste quand même une dominante. Et quand vous êtes au premier tour, vous êtes dans un pool de 30-40 joueurs extraordinaires, ok. Quand vous êtes au 4e, 5e, 6e tour, il y a un pool de 200, 250 joueurs qui peuvent être choisis et il y a une centaine de places. Bah, si vous voulez faire la différence, être un grand athlète, ça peut déjà être une très bonne première chose puisque ça peut vous permettre d'attirer l'œil sur vos vidéos. Ça peut permettre de projeter éventuellement une utilisation de l'équipe spéciale en année 1, etc., etc. Donc, c'est vraiment, je trouve, encore plus fondamental pour un 4e tour ou un 5e tour de réussir athlétiquement par rapport à peut-être des joueurs top 30. Bon, parenthèse refermée. Gabe Hall, écoute, là encore, un très bel athlète, des très belles dimensions physiques. Un peu léger, peut-être qu'il va falloir manger un peu de burger cet été. S'il tombe au Chiefs, Ndiri lui montrera comment faire. Mais globalement, il a été très bon, hein, que ça soit en vitesse, en agilité, en explosivité. On voit sur les vidéos que ça se traduit quand même sur le terrain. Peut-être que sur le terrain, parfois, on se dit si vraiment il a ces capacités athlétiques-là, il pourrait peut-être en faire encore plus. C'est vrai que du coup, on se dit que le potentiel de développement est encore assez élevé sur ce joueur. Et c'est pour ça que là, le scouting est important parce que c'est définir est-ce que le joueur peut progresser. C'est juste qu'il est ou mal coaché ou encore un peu brut ou encore des choses comme ça. Ou est-ce que tout simplement, c'est un joueur qui n'arrive pas à traduire ses capacités athlétiques intrinsèques sur le terrain. Donc, cette réponse-là, on ne l'a pas forcément. C'est au scout de faire le tri. Mais clairement, on voyait un joueur qui manquait peut-être un peu d'explosivité sur les vidéos. Et bien, il n'a pas manqué d'explosivité au combine. Donc, on se dit que, attention, parce que ça peut en effet être un joueur, dès la première année, tu l'as en rotation dans tes defensive tackles, en troisième, en quatrième. Mais il peut faire des choses, donc c'est un profil très intéressant.
Oui, très intéressant. Et tu vois, tu parles de defensive tackle. Il peut le faire, évidemment, moi je pense. Mais quand je le vois comme ça, très grand, ses longs bras, très athlétique, je me dis qu'un 3-4 defensive end, ça pourrait être son meilleur poste en NFL. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il n'a pas énormément de stats avec Baylor. Il était bon, c'est pas la question, mais je pense que dans un système comme ça, en NFL, en 3-4 defensive end, c'est pas très loin de la position de defensive tackle, je chipote, mais un 3-4 defensive end, moi je trouve que ça serait une très belle position pour lui, pour Gable de Baylor. Autre joueur qui est intriguant, alors lui, il s'appelle Miles Cole, il nous vient lui aussi de la conférence Big 12, il nous vient de Texas Tech. Alors, Miles Cole, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à un clone de Tyree Wilson. Vous savez, Tyree Wilson qui a été choisi dans le top 10 l'année dernière par les Raiders. Alors, il n'a pas fait une bonne saison rookie l'année dernière, mais on ne va pas du tout l'enterrer. Et vraiment, physiquement, il me faisait penser à ça, c'est-à-dire un defensive end très grand avec des bras, mais laisse tomber, c'est des tentacules de poulpe. Le clone de Tyree Wilson, mais la production en moins. Alors après, on le sait, tu en parlais tout à l'heure, les attributs physiques pour un choix du 4e, du 5e tour, ben c'est important parce qu'un coaching staff va se dire, ben voilà, il a tous les attributs, on va être capable de le faire travailler, de le développer, d'en faire quelque chose. Après, Miles Cole, ben il pourrait glisser justement le samedi de la draft. Pour plusieurs raisons, la première, ben, la production n'était pas énorme à Texas Tech, donc on se dit comment ça se fait qu'il n'a pas déjà atteint tout son potentiel. Ensuite, on voit qu'il est un peu plus âgé que la moyenne, puisqu'il a passé 6 ans au niveau universitaire. Mais rien que sur le potentiel physique, voilà, il peut faire penser à des choix de draft qu'on a vus. T'as vu Robinson en 2023 par les Ravens, ou Alex White en 2022 par les Browns, voilà, ce type de defensive end très grand avec des attributs physiques incroyables et dont un staff se dit ben, je vais le prendre 3e, 4e tour, essayer de le développer. Donc c'est pour ça qu'on voulait en dire un mot de Miles Cole. Qu'est-ce que tu en penses, Victor?
Ah bah c'est sûr que c'est un alien. J'ai lu que s'il entrait en NFL, il serait déjà dans le top 30 des plus longs bras de l'histoire de la NFL. Donc en effet, c'est assez impressionnant. Et comme tu dis, c'est là vraiment, c'est pareil. On se dit, mais comment un joueur qui a des dimensions physiques aussi idéales et des capacités physiques aussi idéales peut avoir été aussi peu performant sur le terrain? Alors, techniquement, ça a l'air compliqué. Donc je pense, je dis tout de suite, que c'est un joueur, tu draftes en 2024, mais tu t'attends à ce qu'il impacte en 2026, quoi. Quand pendant 2 ans, il a appris le métier à l'entraînement semaine après semaine. Mais quand bien même, en soi, le déficit technique, souvent, sans vouloir manquer de respect au college football, mais vu les disparités de niveau, souvent, ça ne t'empêche pas de faire des stats. Donc c'est vrai que ça reste un joueur très frustrant parce que tu n'as pas l'impression d'avoir vu le même joueur sur le terrain. Parce que enfin, j'ai fait comme tout le monde, hein, je suis retourné voir les vidéos de Texas Tech parce que je ne vais pas mentir, ce n'est pas le joueur que j'avais particulièrement regardé pendant la saison. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne voit pas le même joueur. Donc par exemple, ces changements de direction... ça semblait un peu lourd alors que là il semblait pas lourd du tout. Donc est-ce que aussi peut-être il s'est entraîné pour le combine et il a perdu du poids, etc., c'est possible aussi. Mais là vraiment, quand on dit les mecs cochent toutes les cases, lui il coche toutes les cases avec mention. Donc il y a forcément une équipe qui va tenter le projet, même si je pense que ça restera dans le 5e-6e tour.
Oui, c'est ça le projet, comme tu dis. C'est-à-dire que si tu es une équipe qui a absolument besoin d'un pass rusher numéro 1 ou numéro 2, ben non, tu vas peut-être pas aller sur MyScore, et en tout cas pas au 2e ou au 3e tour. Mais si tu as déjà tes 2 titulaires, ben voilà, je parlais de Tavius Robinson tout à l'heure aux Ravens, ils avaient déjà leur titulaire à l'extérieur avec Owey, avec Bowser, etc. Et ils se sont dit, ben tiens, on va en prendre un autre et puis on va voir ce que ça donne. Et on l'a un petit peu vu cette année, il jouait des bribes de match et puis eh ben, on verra s'il continue à se développer. Et je pense que c'est le même projet qu'une équipe va faire avec Miles Cole. Tu as déjà tes 2 titulaires et tu en prends un 3e, ça apporte toujours un petit peu de rotation. Et puis après, tu te dis, ben avec un bon développement, on sait-on jamais ce que ça peut donner pour le futur. Donc à suivre, voilà, on a balayé un petit peu 2 joueurs intéressants pour le samedi de la draft sur la ligne défensive. Donc Gabel plutôt à l'intérieur de Baylor et puis Miles Cole plutôt à l'extérieur de Texas Tech. Donc maintenant on va reculer d'un rideau, on va passer pour les linebackers. Et il y a un linebacker, moi, qui m'intriguait parce que je ne le connaissais pas du tout. Voilà, je vous dis la vérité. Et c'était juste il y a peut-être, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines. Je vois un poste, vous savez, Daniel Jeremiah. C'est quelqu'un que je respecte parmi les experts, les suiveurs pour la draft NFL. Et il nous dit, mais ce linebacker, il s'appelle Jordan McGee de Temple. Je le trouve très intéressant. Du coup, avant le combine, je suis allé voir un petit peu des vidéos de Temple, parce que là aussi, Temple, c'est pas une université que j'avais regardée, et je l'avais trouvé intéressant. Et ma foi, il a été plutôt bon au NFL Combine, donc un joueur intéressant, ce Jordan McGee. Il a fait 14 plaquages pour perte en 2023, il en avait déjà fait 9 en 2022. C'est un linebacker qui a une bonne vitesse, alors... Il n'a pas le gabarit idéal, mais tu en parlais tout à l'heure, Victor, avec Jaren Cooper. Alors lui, il est encore un petit peu plus léger, mais pas très loin. Mais voilà, c'est la NFL moderne qui a changé. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, une position de linebacker extérieur dans une 43, un petit peu à la Quincy Williams, par exemple, des New York Jets, eh bien voilà, c'est ce type-là de linebacker très vif, très rapide, qui intervient de façon très efficace contre la course. En poursuite, il est très efficace. Et puis après, tu vois ce que tu peux lui utilisé également pour aller faire du blitz, etc. Donc ce Jordan McGee de Temple, moi, il m'intrigue.
Eh bien écoute, je suis comme toi, parce qu'on ne va pas se mentir, même si Temple est situé dans une très belle ville des États-Unis, je ne regarde pas les matchs de Temple toutes les semaines. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est un joueur... alors encore une fois, c'est toujours un peu difficile parce que l'adversité en face n'est pas forcément incroyable, mais c'est un joueur qui a l'air de lire le jeu assez rapidement. Ça a l'air d'être un joueur très intelligent. Personnellement, je l'avais trouvé sur certaines vidéos. Après, c'est difficile de trouver des vidéos vraiment développées, mais j'avais trouvé parfois un peu lent. Bon, clairement, il n'a pas l'air de l'être. Donc peut-être qu'il va falloir qu'il travaille un peu sur son déplacement arrière, notamment en couverture. Mais un joueur aussi intelligent qui teste aussi bien athlétiquement, sur une position qui est dévaluée et où vous regarderez, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont dans leur rotation des joueurs de 5e, 6e, voire undrafted, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la position numéro 1, on ne va pas se mentir. Du coup, pour le coup, ça intrigue. Et je pense que là encore, un joueur qui fait 4,55 au 40 yards en étant un linebacker, à minima, tu le mets dans ton équipe spéciale pour venir assister ton gunner, en fait. Donc déjà, de base, tu as une position pour lui dès l'année 1. Et puis, tu vois comment il se développe. Moi, j'ai tendance à toujours aimer les joueurs intelligents, à penser qu'il y a quand même plus de chances qu'ils se développent que d'autres. Sauf s'ils finissent aux Riders, parce que du coup, ils vont en prison. Mais s'ils sont dans les autres équipes, ils se développent bien. Et non, pour le coup, c'est vrai que... Il va trouver sa place. Pareil, 5e, 6e tour, mais il y a quelqu'un qui va le prendre, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Et puis, puisqu'on parle de position d'évaluer, ben forcément, c'est aussi d'évaluer lors de la free agency. C'est pas sur ce poste que les franchises mettent le plus d'argent. Donc, on voit tous les ans, là, on a vu par exemple Jérôme Baker, etc., des franchises qui libèrent leur linebacker. Et du coup, ben, ils font quoi? Ben, ils vont en prendre un, forcément, au 5e tour pour le remplacer à moindre coût. Et puis, ben voilà, Jordan McGee, ben, tu le mets dans ta rotation où tu as 3-4 linebackers et tu en utilises 2 sur le terrain, tu les fais tourner. Et Jordan McGee, il va trouver sa place en NFL. Donc on arrive maintenant au dernier rideau, et franchement sur le dernier rideau, même si on a vu vraiment beaucoup de bons defensive backs au NFL Combine, puisque bon, on parle de ça, mais il y a quand même un qui a vraiment crevé l'écran, et oui, on le sait, le sprint du 40 yards, c'est peut-être un truc surtout télévisuel, mais quand même, à la position de cornerback, c'est peut-être la position où ça a le plus de sens. Puisque c'est la position où on te demande justement de taper des sprints, d'être rapide en ligne droite, parce qu'il faut que tu suives ton receveur. Et lui, il a crevé l'écran, c'est De Cameron Richardson, et il a tapé un 4,33 au sprint du 40 yards. C'est impressionnant. Alors, c'est peut-être pas une surprise, parce que c'est un sprinter au lycée. On le sait, les athlètes au lycée, souvent, ils font aussi de l'athlétisme ou du basketball, etc., avant de se consacrer au football. Mais quand même, c'est impressionnant, surtout pour un cornerback qui est très grand. Voilà, il est grand, il fait presque 1m90, il est grand, il a un jeu physique, il a signé 85 plaquages en 2022, 79 en 2023, voilà, c'est quelqu'un qui t'apporte aussi en support contre la course, et il est très rapide. Donc voilà, peut-être, un des adages, un des mantras du NFL Combine, c'est « Oh, qu'est-ce qui nous a fait celui-là ? Attends, je vais retourner voir ses matchs un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il fait sur le terrain. » En plus, il était dans la meilleure conférence universitaire avec une belle opposition. Donc, je pense qu'il y a pas mal de scouts, pas mal de décideurs, les managers, entraîneurs qui se sont dit « Ah oui, quand même, sa taille, cette vitesse, on va revoir un petit peu ses vidéos, voir ce qu'il donne. » Donc, De Cameron Richardson, qu'est-ce que tu en penses, Victor ?
Ben écoute, rapide, grand, mais trop léger et jouant à Mississippi State, je pense qu'ils nous ont cloné Emmanuel Forbes. Voilà ce que je pense. Non, en plus, je dis ça, et il est quand même beaucoup plus grand que ne était Emmanuel Forbes. Parce que de souvenir, Forbes, il fait son 83 ou quelque chose comme ça. Et là, on ne parle clairement pas d'un joueur de premier tour, là où on rappelle Forbes, hein, il a été pris au premier tour par la Washington Football Team, Commanders, ce que vous voulez. Écoute, là encore, tu vois, c'est le débat qu'on avait eu sur Forbes l'année dernière n'est pas inutile. Un joueur qui est aussi fin, moi, j'ai toujours peur qu'il se fasse bouffer en NFL. Donc, prendre le risque au premier tour, ça me gave. Par contre, sur ce genre de profil-là, t'es au 5e tour. On te dit, t'as un linebacker, il est très rapide.
Un cornerback.
Un cornerback, pardon. Tu as un cornerback, il est très rapide. Il a l'air d'avoir des bons instincts. Ça manque peut-être un peu de main. Peut-être un peu trop gourmand, il faut qu'il apprenne à un size. Mais au pire, ok. Ça, je peux le coacher. Il est un peu trop léger. Ça, je peux m'en occuper dans une certaine propension, mais je peux m'en occuper. Pareil, tu vas mettre peut-être un an ou un an et demi à modéliser physiquement le joueur comme tu souhaites. C'est pas très grave, si tu es après au 5e ou au 6e tour, t'attends. Et encore une fois, une fusée comme ça, tu peux trouver une place en équipe spéciale. Donc, c'est le genre de joueur, autant j'étais pas chaud de prendre le risque sur Forbes dans le top 50 l'année dernière, autant je trouve que ça fait du sens de donner sa chance à ce type de joueur en fin de draft. Et encore une fois, je trouve que tous les défauts, entre guillemets, hein, qu'il semble avoir, sont des choses qui, selon moi, se coachent, en fait. J'ai pas l'impression qu'il ait un défaut structurel qui ne puisse vraiment pas être corrigé. Donc, là encore, tu me dis qu'une équipe l'a pris même dès le cinquième tour. Bon, écoute, très bien, je tombe pas de ma chaise. Après, il tombera peut-être au sixième ou au septième. Tout le monde ne peut pas être au cinquième. Ça fait partie du jeu. Mais ça me paraît être un joueur intéressant, je suis d'accord avec toi.
Ouais, et puis à voir, parce que retourner les vidéos, c'est quoi aussi ? C'est se dire, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé quelqu'un, une future pépite ? On se souvient de Tariq Woolen qui avait été drafté seulement au cinquième tour, et puis on a vu ce qu'il a fait à NFL, avec lui aussi des attributs physiques incroyables, et il s'est bien développé. Donc, ouais, moi je pense que Cameron Richardson, il a augmenté sa cote lors du NFL Combine, et ça pourrait devenir un joueur intéressant. Donc voilà, on a fait un petit tour de joueurs qui nous paraissent très intéressants pour le samedi de la draft. Je vous les rappelle, Gabe Hall, le defensive tackle, ou 3-4 defensive end de Baylor. Miles Cole, le defensive end de Texas Tech. Jordan McGee, le linebacker de Temple. Et Decameron Richardson, le cornerback de Mississippi State. Juste avant, nous avez parlé de certaines stars que vous allez voir pour la draft. Je vous le rappelle, c'est le jeudi 25 avril. On sera évidemment en direct sur TDA. Dallas Turner, le edge rusher d'Alabama. Braden Fiske, le T-Rex defensive tackle de Florida State. Le linebacker Edgerin Cooper, Texas A&M. Et Quinion Mitchell, le superbe cornerback de Toledo. Bon, mais écoutez, restez de toute façon connectés sur Touchdown Actu parce que vous l'avez vu, les fiches draft ont commencé. Vous en avez une par jour, de quoi vous régaler sur un profil. Évidemment, là, on a parlé du combine cette semaine. Vous avez eu également droit à une mock draft. Vous pouvez retrouver tous les replays sur le site. Et puis, la semaine prochaine, on va reprendre nos podcasts par position. Lundi, vous aurez un podcast sur les linebackers. Mercredi, vous aurez un podcast sur les offensive tackles. Et il y a de quoi dire parce qu'il y a énormément de super candidats. Et vendredi, on terminera la semaine avec un podcast sur les cornerbacks. Donc écoutez, on est en pleine draft season et on vous accompagne jusqu'au jeudi 25 avril. Vous saurez absolument tout sur les joueurs principaux de cette draft. Ben, merci beaucoup, Victor.
Merci, Jean-Michel. Merci à vous tous. Et oui, cette draft, je trouve que cette cuvée ne fait que s'embellir avec les semaines. On a vraiment tellement, vous avez vu aujourd'hui, on vous a pas parlé d'un seul joueur qui nous a déçu parce que honnêtement, il y a tellement de joueurs qui nous impressionnent que on a envie de passer notre temps là-dessus et ça va être un très bel événement.
Et voilà. Donc on vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et on est encore là la semaine prochaine. Draft season, ça y est, on y est, on continue. Allez, ciao tout le monde.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.